de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 12 à 17, pour avancer dans l'année, dans cette pensée que je vous laissais au début de l'année. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Eh bien, c'est une façon de faire la volonté de Dieu que d'écouter et de retenir cette exhortation de l'apôtre. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Il y a beaucoup de choses dans cette courte exhortation. Je ne vais pas développer les premières parties, simplement les mentionner, pour arriver à cette notion de profane. Versets 12 et 13, c'est l'exhortation au raffermissement. Les mains, les genoux, les pieds sont concernés. Ils sont devenus faibles, ils doivent être raffermis. Mais nous sont proposés deux opérations conjointes. La première, c'est de fortifier nos membres faibles. Et la seconde opération, c'est de redresser notre membre déviant, boiteux. Cependant, la force pour se redresser n'est pas dans le pied lui-même, mais dans la voie suivie. Si la voie est droite, le pied va se redresser. C'est curieux, n'est-ce pas? Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. C'est la voie que vous prenez qui est importante. Si vous prenez une voie droite, vous allez marcher droit. Et il faudra veiller à être fortifié, à avoir les genoux qui se tiennent bien debout, qui nous permettent d'avancer. Alors les mains affaiblies, je n'ai pas spécialement médité sur ce que pourraient signifier ces mains affaiblies. Oui. Oui, très bien, oui, le fait de bâtir, de travailler avec les mains, effectivement, oui, être capable d'agir. Alors que le Seigneur nous aide à fortifier nos membres et à suivre une voie droite. L'exhortation continue, verset 14, avec cet appel à la paix, la sanctification, l'esprit de la grâce, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. La préservation de la contamination par un mauvais esprit, puisque que nulle racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. De troubles à cause d'une situation d'amertume. Donc recevons pleinement ces recommandations. Il s'agit de pouvoir voir le Seigneur, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Au jour de sa manifestation, au jour de son jugement, nous sommes appelés à voir le Seigneur. Nous ne pouvons pas voir le Seigneur sans être sanctifiés. Quiconque a l'espérance de le voir tel qu'il est, dit l'apôtre Jean également, se purifie comme lui-même est pur. Veillons, nous dit la parole, faisons en sorte que nous ne nous privions pas de la grâce de Dieu, nous marchions dans la sanctification. Nous avons une responsabilité mutuelle. Veillons les uns sur les autres. C'est aussi une autre parole des apôtres. Et donc, on arrive à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü. L'impudicité, c'est-à-dire l'inconduite sexuelle, est souvent dénoncée sous diverses formes dans les lettres des apôtres. Nous sommes assez avertis là-dessus. Mais ici apparaît aussi la notion plus subtile et fondamentale de profane. Qu'est-ce qu'un profane ? Un exemple est immédiatement présenté à notre conscience, Ésaü. Ésaü est celui qui a vendu son droit d'aînesse pour un mets, précisément pour un plat de lentilles. Alors, nous allons aller dans le texte d'origine pour lire l'épisode. Au commencement de la vie par la foi, en fait, avec Isaac, Ésaü et Jacob, et Rebecca, qui a une grande part dans l'histoire. Alors, Genèse, chapitre 27, verset 25, pardon, d'abord, verset 27 à 34. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, qui signifie « roux ». Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. En fait, c'est ici qu'apparaît le droit d'aînesse, que nous apprenons qu'il existe un droit d'aînesse. Ce droit était quelque chose de très important. puisque Jacob le veut pour lui. Et il profite d'une situation de faiblesse de son frère pour s'en emparer. S'en emparer légalement, puisque son frère le lui vend. Cela ne nous dit pas encore en quoi consistait ce droit d'aînesse. C'est la loi qui va nous renseigner à ce sujet dans le Deutéronome, chapitre 21, versets 15 à 17. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. En fait, ici, nous voyons que la loi, ce n'est pas la loi qui institue le droit d'aînesse. Il existait, il préexistait à la loi. Quelque chose de fondamental qui est apparu dans l'histoire de l'humanité et des hommes de foi en particulier, mais qui ne relève pas initialement de la loi. Mais la loi demande seulement à ce qu'il soit appliqué sans considération secondaire, sans favoritisme. Dieu est un Dieu qui agit justement, qui n'agit pas par acception de personne, par favoritisme, sans faveur particulière. Le droit d'aînesse est pour celui qui a droit, quelle que soit la préférence que le père a pour ses enfants. Cette notion devrait être développée. Mais déjà, on peut retenir que même pour nous également, les apôtres nous demandent de ne pas agir par faveur, par préférence. Dans la première épître à Timothée, chapitre 5, verset 21, je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. L'esprit de justice du Seigneur doit être à l'œuvre dans toutes nos relations et en particulier ici pour la conduite de l'Église du Seigneur. Jacques, chapitre 2, verset 1, va dire une chose semblable. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Et il donne l'exemple. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout » ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Ne faites pas d'acception de personne. Dans la foi au Seigneur Jésus, tous sont égaux. Et Dieu, que ce soit moi ou un autre frère, pourra reprendre le thème et présenter dès le livre du Deutéronome comme celui qui ne fait pas acception de personne. Je vous lis quand même dans chapitre 10, verset 17. Je prends en partie le verset 16. Donc le Seigneur a choisi Israël d'entre les peuples. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez pas votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présents, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu t'attacheras à lui. Le Seigneur ne fait pas acception de personne. Et il a appelé son peuple, mais s'il doit le juger, le reprendre, parce qu'il ne circoncise pas leur cœur, il le fera. Il sera fidèle à sa parole. Alors Dieu agit sans acception de personne, sans faveur particulière, et il ne prive pas les simples du droit d'héritage qu'il accorde. Et en l'occurrence, pour nous, par la foi en Jésus-Christ, il ne va pas attribuer ce droit d'héritage à des personnes bien en vue sur la terre qui lui feraient un faux honneur. Dieu ne se glorifie pas de la gloire des hommes, il se glorifie de sauver le pécheur, quel qu'il soit. Alors si vous êtes dans la foi au Fils unique de Dieu, quelle que soit votre condition, si vous êtes dans la foi en celui qui est le premier-né de toute la création, vous bénéficiez de l'héritage particulier. Vous héritez avec lui. N'est-ce pas là le sens de la portion double? Car nous apprenons par la loi que le droit d'aînesse consiste en une portion double. J'ai un peu réfléchi à cette notion, mais pourquoi une portion double? Et les références dans ma Bible, à parallèle, m'ont aidé. Pourquoi Ésaü a-t-il méprisé la double portion? Plus tard, au moment de la bénédiction, nous le voyons très intéressé par la bénédiction terrestre et complètement désespéré d'en être privé. Au chapitre 27, versets 26 à 40 de la Genèse, ici, Jacob, avec sa mère Rebecca, a usé de ruse pour obtenir la bénédiction. Alors Isaac, son père, lui dit « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit « Voici l'odeur de mon fils, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Ah, il revient aussi cette fois-ci de la chasse. Parce que son père, là, cette fois-ci, lui a demandé d'aller chercher un gibier pour le bénir. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu ? » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père !» Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?» Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père !» Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Isaac n'a pas pu changer l'ordre des choses, c'est Jacob qui avait été béni. Il a, disons, accordé à Ésaü de se tirer un peu d'affaire en errant çà et là. Alors on voit dans ce texte que Ésaü se défend presque d'avoir renoncé à son droit d'aînesse. Il parle comme si c'est Jacob qui lui a pris. Mais c'est bien lui qui l'avait vendu sans état d'âme. Par contre, d'être privé de la bénédiction le rend fou de douleur. Pourquoi la double portion ne l'intéressait-elle pas alors ? C'est que dans cette double portion, il y a une moitié, je pense, qui n'est pas pour ses intérêts à lui. Il va travailler pour la maison du père, pour la gloire de son père, l'honneur de son père. Sa part, donc, dans la vie va diminuer. La double portion introduit les intérêts de Dieu dans la vie humaine. Intérêt d'ailleurs que plus tard le Fils unique, Jésus-Christ, a pleinement assumé en son temps. Et si nous sommes saints et non profanes, nous allons travailler avec Christ pour Dieu. Le profane refuse de servir Dieu dans son esprit et dans sa vie. L'apôtre Paul pouvait témoigner, Dieu que je sers en mon esprit, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, donc dans mes prières. À la phrase « À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Genèse 25, 32, ma Bible en parallèle place deux références édifiantes. Une dans Job, au chapitre 21, versets 14 et 15. C'est un moment où Job discute avec Dieu, se plaint même de voir les méchants prospérer. Et il dit, il disait pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières ?» C'était l'attitude d'Ésaü. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Servir Dieu par l'esprit, par la prière, lui consacrer nos vies et les affaires de nos vies. Tels sont les profanes. Ils pensent qu'il est inutile de servir Dieu et de lui adresser nos prières. Dans Malachie, chapitre 3, verset 14, vous avez dit c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? C'est en vain que l'on sert Dieu. Le profane ne trouve aucun intérêt à servir Dieu ou à considérer les intérêts de Dieu. Entre parenthèses, qui peuvent le priver des joies terrestres, puisque ici il y a associé à fait de servir Dieu, le fait de marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. De là, le mépris du profane lorsque Dieu fait des promesses. C'est encore quelques autres références qui sont associées à ce passage. Dans le psaume 106, verset 24, il est écrit au sujet d'Israël, « Ils méprisèrent le pays des délices, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. » Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus donne une parabole, celle de l'invitation aux noces. Et au verset 5, nous lisons « Mais sans s'inquiéter de l'invitation, bon, je pense quand même que je vais lire un peu plus haut, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses se sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. C'est le même esprit que celui d'Ésaü, il méprise l'invitation et toute l'abondance que le Seigneur est prêt à manifesté pour eux lors de ce repas des noces. Ce sont des profanes qui vont, l'un à son champ, l'autre à son trafic, s'occuper de leurs affaires dans ce monde, qui ne s'inquiètent plus, qui ne s'inquiètent pas, qui ne veulent pas s'inquiéter de ce que le roi leur offre, leur accorde, le privilège d'être dans la maison du roi pour les noces de son fils. Le profane, c'est celui qui a l'esprit du monde. Il travaille pour le monde et pour sa place dans ce monde, mais à la fin, il n'a rien. Il a tout perdu. Ésaü a tout perdu. Il a vendu son droit d'aînesse et il a perdu la bénédiction. La sollicitant avec larmes, il ne l'a pas obtenue, dit le texte d'Épître aux Hébreux. Tandis qu'en travaillant pour Christ et avec Christ, nous recevons tout. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Tout ce qui est nécessaire à la vie présente, avec des tribulations, et surtout, l'héritage avec les sanctifiés. Voilà ce qui est pour ceux qui aiment Dieu, qui vivent dans la piété, dans la recherche de sa face, qui le prient. Je terminerai avec ces deux références. Justement, au moment où l'apôtre Paul doit quitter les chrétiens, eh bien, il insiste sur ce point. Dans Actes, chapitre 20, verset 32, lorsqu'il convoque les anciens d'Éphèse, verset 32, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Et il dit pour lui, pour sa part, « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. » Il recommande les fidèles, responsables ici ou membres des églises, à la parole de la grâce de Dieu et à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec les sanctifiés. C'est en vue de cet héritage que nous vivons et travaillons avec Christ. Il y a encore cette autre référence, chapitre 26, verset 18. Où justement, c'est le rappel de la mission initiale de l'apôtre que Dieu lui a accordée lorsqu'il s'est révélé à lui. À partir du verset 17, Dieu lui avait dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Qu'il n'y ait ni impudique ni profane. Que nous sachions vivre en travaillant au royaume de Dieu pour l'héritage que le Seigneur nous accorde en Jésus-Christ, qui lui est l'héritier de toutes choses, mais qui partage cet héritage avec ceux qui se repentent et qui viennent à lui. Vraiment détournons nos regards du monde, de toutes ses convoitises, de toute sa gloire, hein, parce qu'il y a quand même une gloire dans le monde. pour rechercher le royaume avec piété, avec sincérité. Redressons-nous, fortifions nos membres pour travailler à l'œuvre du Seigneur fidèlement, marcher dans les voies du Seigneur. Ce passage est vraiment un ensemble d'exhortations qui vont dans le même sens. Amen.